Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole est la vérité, ta parole est une semence de vie pour nos vies. Seigneur, je te prie que cette parole nous encourage, nous fortifie, nous renforce, nous consolide et nous donne de porter du fruit dans ce monde. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce n'est pas un scoop de dire qu'en quelques décennies, le consensus concernant les valeurs qui dominent notre société a beaucoup changé. Ces dernières années, on a même vu une accélération de l'évolution de notre société. Et donc, on se retrouve, j'allais dire presque avec surprise, en tant que chrétien, à vivre dans un environnement qui porte de plus en plus un regard défavorable, un regard questionnant sur tout ce qui nous est cher. Et je réfléchissais que finalement, je cherchais dans la Bible si on avait des modèles de ce genre de situation. Alors, de changement certes, mais aussi de vivre dans une société de plus en plus hostile à notre foi, à nos croyances, à nos valeurs, à notre code de vie, à notre code éthique, dans le domaine du début de la vie, de la fin de la vie, mais aussi dans le domaine de l'éthique des finances. Et le dieu Mammon, je crois, a rarement été aussi adoré que dans notre société, etc. Et donc, j'ai cherché des exemples bibliques et je dois dire que finalement, ils sont assez nombreux sur comment vivre nos vies dans un contexte, un milieu différent. Un milieu donc parfois hostile ou en tout cas un milieu de plus en plus étranger à nos valeurs. Il y a peut-être déjà dans votre esprit des exemples qui viennent. Il y a Daniel, bien sûr, dont on vient de lire un passage. Mais avant lui, il y a Joseph, le patriarche, le fils d'Isaac, qui se retrouve en Égypte, dans un milieu seul d'abord, dans un milieu complètement différent, où l'idolâtrie règne, où on adore des divinités païennes, où on adore un dieu vivant, le pharaon, etc., avec des valeurs complètement différentes. C'était le cas pour Daniel aussi. On voit un peu le style de valeur. Daniel est sauvé. Pour honorer cela et fêter cela, on met ceux qui ont voulu l'accuser dans la fosse aux lions, mais avec leur femme, avec leur gosse, avec tout le monde. Des sociétés méchantes, des sociétés qui sont différentes. Des sociétés qui sont différentes. Il y a bien sûr, on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, Esther. Esther aussi, qui se retrouve dans un milieu complètement étranger, qui se retrouve plongée là-dedans, mais c'est pour un but. C'est pour un but. Et puis, je pourrais citer aussi, d'une certaine façon, l'exemple de Jésus, qui était certes en Israël, mais qui était dans une nation qui n'avait plus son autonomie, qui était sous domination, sous occupation romaine, et qui vit donc dans un contexte aussi assez hostile. Donc ces gens sont en exil, pour la plupart, ou dans un pays sous domination. Et en tout cas, les valeurs qui gèrent la vie en société ne correspondent pas, ne sont plus en adéquation avec les valeurs qu'ils portent, eux, personnellement. Si je voulais imager ça, je dirais que nous sommes un petit peu comme si nous étions dans un exil intérieur. Hein, on n'a pas, en tant que chrétien évangélique, avec des convictions fermes dans beaucoup de domaines, on n'a pas été envoyé ailleurs, on n'a pas été déporté, mais on va vivre et on vit, et on va vivre, je pense, de plus en plus comme dans un exil intérieur, dans notre propre pays. Alors, ma première remarque à ce sujet, c'est de faire attention, que nous fassions attention aux faux combats. Faire attention aux faux combats. Dans un milieu hostile, il y en avait un autre que je n'ai pas cité, qui s'appelle Lot. Lot, vous vous souvenez, où est-ce qu'il vit ? À Sodome, hein, dans les villes de Sodome et Gomorre. Donc, dans un contexte aussi tellement différent. Bon, là, on est au tout, tout, tout début de l'histoire de la rédemption. Lot est le neveu d'Abraham, il est très proche, il n'y a pas encore eu toute la loi, il n'y a pas encore eu. Mais il y avait quand même cette éthique, j'allais dire, et cette révélation d'un Dieu unique qu'il faut suivre, qui parle aux hommes et qui donne une certaine éthique. Et Lot se retrouve plongé dans un milieu complètement différent, complètement hostile. Il a choisi d'habiter là-bas. Vous savez, Abraham lui a donné le choix. Est-ce que tu veux aller monter sur la montagne? Est-ce que tu veux habiter en bas dans la plaine? Lot voit la plaine fertile. Il voit tout ce qu'il a à gagner dans cette société. Il se dit, mais c'est génial, là, je vais faire fortune, je vais vivre, mes enfants vont être heureux, je vais pouvoir, etc., etc. Oui, mais il ne voit pas que la société a évolué et qu'elle évolue de plus en plus. Il se retrouve dans un milieu, quand on lit, c'est complètement ahurissant. Et Lot, Pierre, l'apôtre Pierre, va décrire la situation de Lot à l'époque. Et le point que je veux faire là, c'est attention au faux combat. Comment on réagit dans une société différente, de différence? 1 Pierre chapitre 2. Donc Pierre va dire, si Dieu a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme un exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Lot, vivant dans une société hostile, différente, il nous est décrit comme quelqu'un qui souffre, qui tourmente son âme tous les jours. Et ça peut être une première attitude vis-à-vis de la société, de se tourmenter. J'ai souvent été comme ça, de me dire, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Ben si, c'est possible, d'abord. Et l'attitude de Lot, c'est une première attitude juste, puisque Dieu dit que c'était un juste. Mais son attitude ne change rien. Ce qui est assez extraordinaire quand on relit l'histoire de Lot, c'est qu'il vit dans une société qui, elle, est arrivée au comble de l'iniquité, nous dit la Bible. Au comble de l'iniquité. Et que donc c'est une société qui est arrivée comme au terme de la patience de Dieu. Et effectivement, le jugement de Dieu va passer, va arriver. Et donc les lamentations de Lot ne vont rien changer. Il va s'attrister, il va souffrir profondément, mais ça ne va rien changer. Alors une fois, il va tenter d'intervenir. C'est toute l'histoire des anges qui le visitent, qui viennent dans sa maison, etc. Vous vous en souvenez, j'espère, sinon retournez la lire, cette histoire. Et donc Lot va tenter d'intervenir pour freiner ce mal, pour empêcher que ce mal n'aille trop loin. Mais il n'aura aucun crédit auprès des gens qui sont autour de lui. La seule réponse que les gens vont lui dire, c'est « Retire-toi de nous ». On lit ça dans Genèse 19,9. Et ils lui disent aussi, quoi? Celui-ci, qui est comme un étranger au milieu de nous, il veut faire le juge? Il veut donner la leçon? Et donc, cette attitude de Lot dans une société hostile, qui est une attitude de souffrir, de se lamenter de ce qu'il voit autour de lui, une attitude qui, pour lutter contre le mal, va se positionner en donneur de leçons. Mais cette attitude, elle est stérile en fait. Elle mène nulle part. Ce n'est pas qu'elle est mauvaise, ce n'est pas qu'elle n'est pas conforme à la vérité. Lot était vraiment juste, mais son positionnement n'a pas fonctionné. Donc je voulais qu'on regarde ce matin les autres positionnements. Les positionnements de ces gens que j'ai cités, Joseph, Daniel, Esther, Jésus, qui vont prendre en compte le contexte dans lequel ils vivent, dans lequel ils sont immergés, et qui vont se poser cette question. Bon, voilà où on en est, et maintenant qu'est-ce qu'on fait? En fait, quand on relit l'histoire de Joseph, de Daniel, d'Esther, et je vous encourage à les relire dans les jours qui viennent, ces histoires de Joseph, Daniel et Esther, c'est passionnant. C'est d'une actualité plus actuelle presque que le Midi Libre de demain. Et ces gens vont sembler bien s'adapter à leur contexte. On ne voit pas vraiment Joseph souffrir. Pourtant, il va souffrir, il va se retrouver en prison, etc. Enfin, mais on ne le voit pas, il ne nous est pas décrit comme nous est décrit Lot, tourmentant son âme. C'est la même chose pour Daniel, c'est la même chose pour Esther, même s'il y a eu un moment de lutte pour Esther, et c'est la même chose pour Jésus. Jésus, certes, va pleurer sur Jérusalem, mais il ne va pas pleurer sur le contexte romain. Ça me fait penser un petit peu à cette parole de l'Évangile qui nous dit que, certes, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et donc, ces gens vont chercher et vont sembler bien s'adapter à leur contexte hostile, et ils vont y vivre pleinement selon la volonté de Dieu. Le contexte extérieur ne va pas les empêcher de vivre selon la volonté de Dieu. Quelques remarques intéressantes. Joseph n'a pas cherché à abattre les idoles de l'Égypte. À aucun moment. Pareil pour Daniel. Il ne s'est certes pas prosterné comme... Enfin, il a continué plutôt à se prosterner, mais il ne s'est pas prosterné comme à un autre épisode où on demandait de se prosterner. Là, c'était les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Hein, tout le monde se prosterne devant le roi. Eux restent fermes et droits parce qu'on ne se prosterne pas et on n'idolâtre pas un homme. Et ils se retrouvent, eux, non pas dans la fosse aux lions, mais dans la fournaise ardente. Passionnant comme histoire. Ce n'est pas que des histoires pour l'école du dimanche, hein. C'est des histoires pour nous aujourd'hui. Donc, à aucun moment ces gens n'ont cherché à abattre les idoles du lieu, se sont pas battus contre. Ça aurait été, je pense, un faux combat qui était destiné de toute façon à ne pas fonctionner. Pareil pour Esther, pleinement à la cour du roi, même reine, concubine du roi. Pareil pour Jésus, Jean-Baptiste. On lui demande ce qu'il faut faire des soldats. Il dit ben, qu'ils se contentent de leur solde, qu'ils fassent leur boulot, mais etc. Donc c'est, je trouve que c'est assez intéressant de voir ce positionnement qui, où Jésus, par exemple, ne va pas du tout lutter contre l'occupation romaine. Ça semble vraiment complètement hors de son souci. Il se préoccupe d'autre chose. Il a une autre dimension dans laquelle il va servir Dieu. Alors en disant ça, on dit, d'accord, mais alors est-ce qu'on doit tout laisser faire? Est-ce qu'il n'y a pas des moments dans l'histoire où j'allais dire il faut entrer en résistance? Et c'est vrai que des chrétiens se sont levés pendant l'occupation nazie, par exemple, contre. Et il y a eu des chrétiens qui se sont levés contre par exemple, l'esclavage, contre le. Cayenne, comment on appelle? Le bagne de Cayenne, etc. Il y a eu, qui était inhumain, qui était. Donc il y a eu des chrétiens, il y a eu des moments dans l'histoire où les enfants de Dieu ont dû se positionner de façon ferme, mais souvent discrète, contre. Mais là, on voit l'exemple biblique de gens qui sont dans une société qui n'a pas grand-chose à voir avec leurs valeurs, mais qui y vivent leur vie, j'allais dire chrétienne. En fait, de peuple de Dieu, d'Israël. Alors, je voudrais donner trois points communs que j'ai retrouvés chez ces gens. Trois points communs chez Joseph, Daniel, Esther et même chez Jésus. Le premier point commun, je l'ai appelé garde ton cœur plus que toute autre chose. En fait, c'est une citation d'un proverbe, c'est le proverbe 4, 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ça, c'est le premier encouragement, le premier indice pour nous, pour vivre dans une société différente. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et c'est vrai que quand on voit Joseph, j'ai dit qu'il était adapté dans son milieu pourtant différent, mais il n'a jamais compromis son cœur. Souvenez-vous de l'histoire de la femme de Potiphar. Joseph a été clair, au point de se retrouver en prison, au point d'être victime d'injustice. Et donc notre positionnement en tant qu'enfant de Dieu peut nous amener parfois à vivre des injustices. Mais on est encouragé, garde ton cœur. Vis dans cette société, mais va jusqu'à un certain point où là tu t'arrêtes parce que ce serait un point de non-retour. J'ai cité l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego avec la statue d'or. Non, ils ont refusé de se prosterner devant cette statue qui représentait le roi. Et ils en ont payé le prix, mais Dieu les a délivrés. Il y a Esther. Je disais Esther tout à l'heure, quand on lit son histoire, elle a eu un moment de doute. Un moment où elle s'est dit, bon d'accord, il y a un décret de mort sur tous les juifs du royaume. C'est pas écrit comme ça, mais on peut le supposer. Mais elle s'est dit, mais finalement, moi je suis la reine quand même. Je suis dans le palais royal. Ça se sait pas trop que je suis juive. Et elle a dû se dire, bon finalement, je peux peut-être passer entre les mailles du filet. Et on sait qu'elle a dû se poser cette question-là, parce que ça c'est écrit noir sur blanc, que son cousin Mardoché lui a dit, Esther, ne crois pas que tu t'en sortiras seule. Et c'est ce qui a décidé Esther, qui s'est dit, bon, ok, je fais partie d'un peuple, je fais partie d'une élection, je fais partie d'un autre monde, il faut que j'assume que je fais partie de cet autre monde. Et elle a pris tous les risques pour elle-même et pour son peuple. Donc il y a des moments où il peut y avoir cette bagarre un peu intérieure, de dire, qu'est-ce que je fais? Je me moule, je me dilue, ou je reste ferme, ou je garde mon cœur? Et Esther a gardé son cœur. Et le résultat, ça a été une énorme délivrance. Tout le peuple a été sauvé et tous les ennemis du peuple ont été massacrés. Ça, c'est cette notion de pas de compromis, quelque part. J'ai écrit sur mon papier, ne sacrifie pas ton héritage pour un plat de lentilles. Parfois, ce que nous offre ce monde, hein, ça sent bon, c'est beau à voir, c'est bon à manger. Ça ne vous rappelle pas quelque chose dans un jardin bien avant? Mais ne sacrifie pas ton héritage pour un plat de lentilles. Donc, pas de compromis en ce qui concerne les choses essentielles. Et quand on voit Daniel, Joseph et les autres, il n'y a pas eu de compromis dans leur vie, dans leur cœur. Ils étaient droits et intègres, ils étaient justes. Le deuxième point, qui est un point commun entre tous ces gens, et qui me semble vraiment important et intéressant, c'est la dimension du surnaturel. Bibliquement, ce serait un petit peu comme si dans les sociétés les plus hostiles, c'est là que se produisent les plus grands miracles. C'est assez impressionnant. Souvenez-vous aussi de Moïse. J'aurais pu prendre l'exemple de Moïse. Moïse, dans une société, l'Égypte, complètement opposée au peuple, complètement opposée aux valeurs de ce peuple d'Israël, etc. Le peuple hébreu à l'époque. Et regardez les grands miracles. Regardez les grands miracles. Des choses que j'ai jamais vues. La mer Rouge s'ouvrir. Vous vous rendez compte? Une mer qui s'ouvre pour laisser passer un peuple libre. Ce n'est pas qu'une belle histoire dans un livre, ça s'est produit. Les sauterelles qui viennent dévorer le pays, tous les premiers-nés de l'Égypte qui meurent en une nuit, sauf là où il y a le sang. Incroyable, des miracles, mais... Et regardons aussi les vies de Joseph. La vie de Joseph, ce n'est qu'une succession de présences du surnaturel. Dès le début, un songe, un rêve, quand il est très jeune, il explique ça à ses frères et c'est le commencement de ses ennuis. Parfois, le surnaturel, ça nous amène des ennuis. Parfois, nos frères, le surnaturel nous amène des ennuis d'abord avec nos frères. Pas forcément avec les étrangers, d'abord. Joseph, qui a des songes, qui a des visions, il va passer ce temps, j'allais dire, toujours, il a gardé son cœur et la présence de Dieu est sur lui. J'ai fait un message il n'y a pas longtemps sur la nuée qui était sur Israël, mais je crois que la nuée, elle était sur Joseph. La nuée, elle était sur Daniel. La nuée, elle était, à combien plus forte raison, sur Jésus. La nuée, elle est sur toi aussi. Daniel, idem, quand on regarde sa vie, ce n'est qu'une succession de miracles, de choses extraordinaires, de délivrances incroyables. Dans le livre d'Esther, c'est un petit peu différent, parce que le livre d'Esther, vous le savez, c'est le seul livre de la Bible où n'est pas mentionné Dieu, ni son nom. On ne trouve aucune mention ou évocation de Dieu dans le livre d'Esther. C'est comme si Dieu était caché. C'est ce que veut dire le mot Esther. Je vous l'avais rappelé il n'y a pas longtemps aussi. Mais quand on relit le livre d'Esther, on se rend compte que Dieu est bien présent et qu'il y a des coïncidences. Il y a énormément de coïncidences dans le livre d'Esther. Mardoché qui entend une histoire, qui va rapporter au roi, ça va être écrit dans les chroniques, on va ressortir ce livre des chroniques bien longtemps après, parce que comme par hasard, le roi ce jour-là a des insomnies. Enfin, relisez, vous allez voir, c'est plein de coïncidences. Et ces coïncidences, c'est la main de Dieu, c'est le surnaturel de Dieu qui, dans une société complètement opposée à Dieu, arrive à conduire les choses quand même, arrive à diriger les choses. Ne croyons pas que parce que nos sociétés s'éloignent de Dieu, Dieu n'est plus en contrôle. Moi, je crois que Dieu contrôle tout. Dieu n'est pas surpris. Il n'y a pas de surprise chez Dieu. Il n'y a pas de surprise. Quelqu'un disait que les coïncidences, c'est vraiment Dieu qui agit caché, mais qui agit bien. Combien de fois j'ai vu la providence, les coïncidences de Dieu dans ma vie, dans nos vies, avec Cathy, où au bon moment, l'argent tombe, ou au bon moment, telle circonstance, ou au bon moment, telle rencontre. On l'a vécu encore il n'y a pas longtemps. Pour Thomas, pour son avenir, pour ce qu'il va faire l'an prochain, etc. Dieu agit d'une façon ou d'une autre, mais il est en contrôle. Il agit, c'est incroyable. On ne le voit pas, parfois c'est discret. Il ne claironne pas, il ne sonne pas de la trompette avant d'agir. Mais il est là, dans le murmure doux et léger, comme pour Moïse. Ça, c'est extraordinaire. Parfois, il est là et on ne le reconnaît pas. Mais dans la vie de ces hommes, de Daniel, de Joseph, de Jean et de Jésus et de tous les autres, Dieu était à l'œuvre. Le troisième point, et je finirai avec ça, c'est que tous ces hommes et femmes qui vivaient dans une société opposée à Dieu et en conflit ouvert vis-à-vis du monothéisme, etc., eh bien, tous ces hommes et ces femmes ont recherché toujours, toute leur vie, le bien de tous. Joseph, grâce à ses songes, a garanti la prospérité de l'Égypte pendant les années de famine et de disette. Daniel, par sa gestion du royaume, a garanti la prospérité des royaumes. Il a été sous deux rois de deux empires différents et ça a marché et il a eu la faveur de ses rois. Esther, elle a garanti la prospérité de tout Israël, de tout le peuple juif de son temps, etc., etc. Et Jésus aussi, même si dans Jésus, il y a une particularité, parce qu'on sent que chez Jésus, il y a comme un temps qui se termine et un temps qui s'ouvre. À un moment, lui-même dit, allez d'abord vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ou alors, Jésus va dire, j'ai été envoyé pour Israël quand une femme syrophénicienne vient l'importuner. Mais quand même, il va faire le miracle à chaque fois. Mais quand même, dès qu'il a la possibilité, il touche ceux qui sont plus loin. Donc Jésus n'a pas recherché que le bien du peuple d'Israël, déjà. Et bien sûr, son envoi, c'est vers les nations, c'est vers toutes les nations. Donc le troisième point sur ces gens qui vivaient dans une société hostile, c'était recherche le bien commun. Recherche le bien commun. Alors c'est vrai que la Bible va nous dire de chercher en priorité le bien des nôtres, de notre famille. D'accord ? Celui qui ne prend pas soin des gens de sa famille, c'est comme s'il avait renié la foi. C'est un texte biblique. Bien sûr que la Bible nous encourage à donner après la famille une priorité aux frères et sœurs dans la foi. La Bible dit clairement de prendre soin des frères et sœurs dans la foi en priorité. Mais la Bible nous dit de ne pas nous arrêter là, de ne pas être chiche, mais de rechercher le bien de tous. Rechercher le bien de la ville dans laquelle je vous ai envoyé, déporté. C'est Dieu qui parle à Israël. Et je crois que ces gens avaient ce mandat. Et je crois que nous aussi, nous avons ce mandat en tant qu'enfants de Dieu, parce que c'est le mandat du peuple de Dieu. Rechercher le bien de tous. Il nous est dit que Jésus allait de lieu en lieu, guérissant les malades, bénissant les gens, faisant du bien à tous. Alors je vais m'arrêter là. C'était juste quelques réflexions sur comment, en tant que chrétien, dans une société qui s'éloigne de plus en plus des valeurs qui nous sont chères et qui sont les valeurs de la vérité, qui sont les valeurs divines, comment on fait ? L'attitude de Lot, qui reste au milieu, il aurait pu s'exiler. Non, il reste, c'est bien, il reste au milieu. Et Dieu ne nous demande pas d'aller sur une montagne, fonder un monastère pour vivre en autonomie nos valeurs. Ce n'est pas ça. Lot a bien fait, il est resté au milieu. Mais d'abord, il était dans une société qui était à la fin, ce qui n'est pas encore, je crois, notre cas. Mais tout ce qu'il a fait après, c'était de pouvoir se lamenter et donner des bonnes leçons de morale. Je crois que ce n'est pas l'exemple à suivre pour nous. Je pense que l'exemple à suivre, c'est celui de Joseph, de Daniel et des autres. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Vis le surnaturel. J'allais dire, recherche le surnaturel. En fait, on n'a pas besoin de le rechercher. Je pense qu'on a besoin de le laisser être, simplement. Parce que Dieu est là. Dieu est sur nous. La nuée est sur nous. Laissons le surnaturel. Vivons-le. Encourageons-le, le surnaturel, dans tous les domaines. Ne serait-ce que dans la providence de Dieu. Reconnaissons Dieu dans toutes nos voies. Regardons les panneaux indicateurs. Regardons les petits miracles. Regardons que, comme par hasard, ce jour-là, il a fait soleil. Gloire à Dieu. Et puis le troisième point, nous sommes là pour bénir les autres. Nous sommes là pour bénir les autres. Nous ne sommes pas là d'abord pour critiquer, pour nous opposer, pour donner des bonnes leçons de morale à tous. On est là pour incarner ce que nous sommes. Incarner ce que nous sommes. Et on est là pour bénir tous. Alors allons au-devant des gens. Bénissons. Prions pour les malades. Encourageons les frères et sœurs. Encourageant ceux qui ne sont pas encore les frères et sœurs, bénissons ceux qui nous maudissent. On revient à l'exemple de Jésus. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Amen.